Boomerang au Festival de Cannes pour 2 semaines, Nicolas, et on ouvre cette quinzaine avec un certain Pierre Lescure qui en est le président pour la dernière année. Il est dans Boomerang, évidemment. Un rectangle blanc, dans le sens de la largeur, plus ou moins grand, mais de plusieurs mètres souvent, un cadre. Un peu comme une immense fenêtre qui découpe le réel, sauf qu'à travers, on ne voit pas le jardin ou l'immeuble de ses voisins, à travers, on peut aller beaucoup plus loin. Vous savez, c'est marrant, on parle parfois d'écran noir, mais moi je ne vois que du blanc. Un peu comme la page blanche du livre qui s'écrit, c'est une toile immaculée qui peut nous emmener dans le monde entier. Hier, demain, aujourd'hui. Et on est comme hypnotisé, vous savez. On a les yeux rivés sur cette fenêtre. Peut-être parce qu'on est attiré par la lumière. Peut-être parce qu'on est un peu voyeur, sauf que là ce n'est pas interdit, c'est permis. Peut-être pour le simple plaisir, soudain décomplexé, de regarder. Comme n'importe quelle personne qui se sent un peu enfermée, pour ne pas dire confiné, on regarde par la fenêtre, on a soudain les yeux de n'importe quel curieux qui est de l'autre côté de la terre, ou dans une autre époque, ou dans un monde imaginaire. Alors évidemment, c'est un regard qui est cadré, mais on peut imaginer tout ce qu'il y a derrière ou à côté, tout ce qu'on voit pas. C'est pas grand-chose pourtant, c'est un rectangle blanc, mais qui nous ouvre vers des autres et des ailleurs qu'on n'imaginait pas. C'est 1000 fenêtres à la fois, c'est une toile de cinéma.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quel monde est donc mon invité d'aujourd'hui? Il s'apprête à vivre son dernier festival de Cannes en tant que président. Après 8 ans de bons et loyaux services, il passera bientôt le flambeau à l'allemand Iris Knobloch. En attendant, en cette veille du coup d'envoi de cette quinzaine, il est venu nous parler de cinéma. Bonjour Pierre Lescure.
Bonjour Augustin.
Merci d'être avec nous ce matin. Je me suis demandé quel monde, au pluriel, est-ce que vous avez découvert grâce au cinéma, vous?
J'ai déjà découvert au tout début de ma vie les mousquetaires, Scaramouche. T'avais Stewart Granger qui s'accrochait au rideau, qui sautait du balcon. Je me suis dit, c'est ça la vie, faut sauter du balcon.
Mais dans quelle mesure la mission d'un festival, comme le Festival de Cannes, Pierre Lescure, c'est justement de proposer une ouverture sur le monde pour vous?
C'est exactement ça, et c'est noble, c'est merveilleux, et c'est réjouissant. Puis c'est nécessaire. Depuis toujours, depuis 46, et diablement cette année, tous les mondes ont rendez-vous sur la croisette pendant 11 jours.
Mais dans un contexte aussi particulier que celui-ci, que peut le cinéma, à votre avis?
Je pense qu'il peut beaucoup, il peut pas tout, mais il peut énormément et il est essentiel. C'est là qu'on voit la différence entre le cinéma et les feuilletons, au meilleur sens du terme. C'est que le cinéma te donne une vision du monde qui vient un jour de Corée, l'autre jour d'Amérique du Sud ou qui vient de Belgique.
Et là, je pense tout de suite à Kirill Serebrennikov, figure de l'opposition au régime de Vladimir Poutine, en lice pour la Palme d'Or avec Tchaïkovski's Wife. Je pense également au réalisateur ukrainien Sergei Loznitsa et Maxime Nakonechny, dont les films, tous les deux en sélection officielle, seront respectivement projetés en séance spéciale et dans la catégorie Un certain regard. Réunir ces cinéastes, ces trois-là en particulier, et à travers leur pays, quel symbole est-ce que c'est?
C'est le symbole que la guerre ne gagnera pas tout, mais que la guerre est là. C'était important, mais c'est d'abord parce qu'ils avaient fait des bons films que les deux Ukrainiens et que le Russe sont là. Certains ont dit tout de suite, comment vous prenez un Russe? Mais oui, parce que ce Russe-là, il a déjà été c'est sa 3e sélection, si je ne me trompe, et les deux fois précédente, il n'a pas pu venir, il était bloqué dans son pays, car s'il sortait, il pouvait pas rentrer. Donc il y avait toujours des séances très émouvantes où les gens se levaient pour lui faire un message. Là maintenant, il habite Berlin, il a fui la Russie parce qu'il ne peut pas rester dans ce pays, il veut pouvoir s'exprimer. Et puis les Ukrainiens, évidemment, le symbole de ce cinéma, le cinéma est là.
Il y a un engagement, Pierre Lescure, on l'entend, qu'est-ce que ça dit de la nature profondément militante et politique de ce festival?
Ce festival, il est né militant, puisqu'il est né en 39, dans l'idée de Jean Zay, parce qu'il fallait répondre au Venise, Dieu sait si Venise a changé, mais en 39, c'est une idée de Mussolini. C'est donc un festival démocratique et international que la France veut lancer en 39. Il n'aura pas lieu en 39 et pour cause. Jean Zay, son fondateur, son inspirateur, sera assassiné entre-temps et le premier festival aura lieu en 46. Ça dit déjà tout de ta mission au-delà d'avoir un tapis rouge et de s'amuser.
Cette mémoire, elle est présente dans la sélection que vous faites avec Thierry Frémaux, mais également dans la présence du festival encore aujourd'hui.
Ah oui, je crois. en permanence. En permanence, ce festival, comme tous les beaux et grands, même les petits festivals à travers le monde, ce festival n'a de fonction que s'il n'oublie pas son origine.
Quel militant est-ce que vous êtes, vous, Pierre Lescure, vous qui avez grandi dans une famille militante communiste ?
Je pense être avant tout un militant du collectif. Mes parents m'ont appris ça avec leur absence totale de sectarisme, qui me laissait aimer le rock et l'Amérique à l'époque de la ségrégation, à l'époque de l'exécution des Rosenberg. Et en même temps, il y avait Presley qui chantait avec des copains noirs. En même temps, mes parents me faisaient écouter tous les petits chanteurs de l'époque, qui étaient Brassens, Brel, Ferret. Et en même temps, on m'emmenait voir des musiciens de jazz. Et en même temps, on me faisait aimer le cinéma américain. Donc, c'est universaliste. Mais ça veut dire qu'il faut aussi s'occuper du quotidien ici. Se battre ici pour tout, tout le temps.
La radio donne des nouvelles. Heure par heure, on annonce que des usines sont occupées, que telle et telle ferme, que le train ne marche plus. Maintenant, ça va être les métros et les bus. Alors, si on annonce toutes les heures et le festival de Cannes continue, eh bien, c'est franchement ridicule.
Vous me demandez comment Bush va réagir à ma palme d'or ? Mais il ne sait même pas ce que c'est. J'espère qu'on ne lui apprendra pas la nouvelle pendant qu'il mange un bretzel.
We have a guy in the White House, and that motherfucker did not denounce the motherfucking Klan, the alt-right, and those Nazi motherfuckers.
I really wanted to be a Jew, and then I found out that I was really a Nazi. What can I say? I understand Hitler.
La prestigieuse Palme d'Or a été décernée à 71 réalisateurs, mais seulement deux réalisatrices. Ces chiffres sont éloquents, irréfutables. Il est temps que toutes les marges de notre industrie nous soient accessibles. Allons-y, on monte.
Pierre Lescure, quand et comment avez-vous découvert l'existence du Festival de Cannes, vous ? Vous vous souvenez ?
Oui, dans Cinémonde, qui était un magazine en papier glacé, parce que j'avais 9-10 ans, et ma grand-mère, qui était directrice d'école d'un groupe scolaire à Maison Alfort, elle achetait Cinémonde.
Quelles images vous reviennent immédiatement à l'esprit ? Quelles photos ?
Ah ben, c'est les photos des nymphettes de l'époque, mais qui s'appelaient aussi bien Jeanne Moreau que Brigitte Bardot.
Et ça représentait quoi pour le jeune garçon que vous étiez ? En quoi est-ce que ça vous a tout de suite fait rêver ?
Ça m'a fait rêver parce que c'était une aventure. Je savais que sur la Croisette, quelque part dans le sud de la France, dont je n'étais pas familier à l'époque, il y avait le monde entier du cinéma qui venait. Et ça, je trouvais ça magnifique, parce qu'il y avait à la fois déjà des réalisateurs soviétiques, comme on disait à l'époque, et des réalisateurs américains. Et je me disais, donc, ça doit être possible.
Est-ce que vous imaginiez un jour que vous en deviendriez le président ?
Ah non, pas du tout. Non, à l'époque, je voulais être clown ou pompier, donc...
Quelque part, c'est ce que vous êtes devenu.
Exactement. Je suis pompier parce que tous les matins pendant le festival, pendant que Thierry petit-déjeune avec un cinéaste venu de quelque part, moi, je petit-déjeune avec le préfet, entouré par toutes les forces de sécurité. Il y a une réunion tous les matins à 8h30.
Le rôle d'un président, c'est quoi ?
C'est une autorité morale, juridique et économique. Ça veut dire qu'on a la signature. On doit faire en sorte que l'esprit et la lettre du festival soient suivis à la lettre et dans l'esprit. Mais en même temps, c'est une autorité morale de gardien du temple. C'est comme ça que Gilles Jacob m'a passé le bébé.
Il y avait cette idée quand même de porter un projet, de défendre une vision. Et c'est ce que vous avez fait toute votre vie. Pierre, je pense à votre carrière à Canal, en tant que directeur puis président. Pour ce qui est de Cannes, quelle vision est-ce que vous avez eu le sentiment de porter après 8 ans de président?
D'abord, on a porté, Thierry et moi, deux idées. Il fallait absolument vivre tout ce qui fait les débats et l'actualité. Donc, on a pris en marche le train du 50-50 et de MeToo, mais je pense qu'on l'a fait de façon proactive et au maximum de nos moyens. On a essayé aussi de s'ouvrir au maximum à tous les sujets. Il y a beaucoup de films qui traitent de l'écologie cette année. L'année dernière, Thierry avait fait une petite sélection particulière d'une dizaine de films écologiques.
Avec le film de Sylvain Tesson, notamment.
Avec le film de Sylvain, quelle beauté.
La Panthère des Neiges.
La Panthère des Neiges. Beauté absolue d'une réalisatrice.
Ouais. J'aimerais, si vous le voulez bien, Pierre Lescure, qu'on écoute la voix de votre prédécesseur, Gilles Jacob. C'était il y a 8 ans et il faisait ses adieux au festival.
Je suis heureux de remettre avec Nicole Garcia la caméra d'or. J'ai créé ce prix il y a longtemps et il résume bien tout ce que j'ai voulu faire au festival. Aider, découvrir, célébrer le cinéma et préparer son futur.
Les adieux de Gilles Jacob en 2014, l'année où vous lui avez succédé, Pierre Lescure. Il y aura quoi dans votre discours d'adieu, à vous, d'ailleurs ?
J'espère avoir dans la voix le même sourire que Gilles qu'on vient d'entendre, la même gourmandise, et en même temps, la même gourmandise pour demain, parce que c'est le Festival de Cannes, je vais le quitter en tant que président, mais le quitter jamais, et puis il y a encore 1000 aventures, enfin en tout cas 3-4.
Il dit bien effectivement que l'une de ses ambitions aura été de préparer le futur du cinéma, et ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est pour vous le futur du cinéma, Pierre ?
Le futur du cinéma, ce sont tous ses premiers films que Thierry et son équipe ont sélectionné. C'est Lajli, le réalisateur des Misérables, qui est membre du jury cette année. C'est le fait de s'ouvrir demain, in a way or another, aux plateformes.
C'est la question que j'allais vous poser. Et en quoi il se joue aussi, maintenant, aujourd'hui, plus que jamais, la possibilité d'une collaboration plus appuyée avec les plateformes. Ce que fait déjà le Festival de Venise, dont on parlait tout à l'heure, qui ces dernières années n'a pas hésité à programmer des films Netflix, comme The Power of the Dog de Jane Campion ou Roma d'Alfonso Cuarón.
Dans collaboration, il faut être deux. Ou alors on la subit, c'est une autre histoire, on en a connu. Mais la collaboration, il faut être deux. Ça veut dire que le festival se devra d'accueillir des films qui sont évidemment des films de cinéma qui auront été financés et diffusés par les plateformes, mais les plateformes devront les exposer aussi en salle.
Oui.
La salle n'est pas l'unique objet du cinéma, mais elle est un passage obligé. Qu'on ne me dise pas que Roma, ce film extraordinaire avec ses travelling déments, ses plans séquences déments de Cuarón, n'a pas souffert de ne pas être suffisamment exposé au cinéma.
Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, Iris Knobloch, ancienne directrice de Warner France, qui vous succédera très prochainement?
Ben, elle incarne l'Europe et le monde. C'est une Allemande, amoureuse du cinéma depuis toujours, et puis elle a eu envie d'aller plus avant dans le cinéma et dans sa fabrication. Elle a été repérée comme ça par la Warner, qui lui a proposé de diriger la Warner en France pendant 25 ans.
Je me souviens quand vous avez dit que vous n'accepteriez de lâcher les rênes du festival qu'à une seule condition, c'est que ce soit une femme qui prenne la relève. C'est un chantage, Pierre.
Non, c'était pas un chantage, c'était de dire je vois pas pourquoi je lâcherais si ça n'est pas pour une bonne cause, pour une bonne raison.
Et ça, c'est une bonne raison.
Oui, c'est une raison qui correspond à ce à quoi nous croyons, Thierry et moi. Il fallait au moins que ce soit un symbole qui soit tourné vers demain et sur la vraie vie.
En tout cas, de ce festival, bien avant que vous n'en deveniez président, vous en avez toujours été un acteur principal, un acteur central, notamment lorsque vous étiez directeur puis PDG de Canal. En quoi Canal+ est lié à l'histoire de ce festival, pour qu'on comprenne bien?
D'abord parce que Canal est lié à l'histoire du cinéma. Canal a vécu du cinéma dans ses 15-20 premières années et l'a bien rendu au cinéma. Jamais le cinéma n'a eu autant de moyens en France et jamais le cinéma n'a produit autant de films et de bons.
Alors,
et donc Canal en bénéficiait. Et puis il y a eu ces discussions avec Gilles Jacob qui nous ont amenés sur la croisette.
Mais alors, qu'est-ce que vous avez ressenti, honnêtement, lorsque Canal en décembre dernier a annoncé que la chaîne, après 28 ans, se retirait du festival? Là, on parle de vous.
Disons que moi, il y a longtemps que j'ai regretté qu'un certain nombre de choses ne se fassent plus. Mais c'est vrai que les temps ont changé. Canal, aujourd'hui, est une plateforme qui a abandonné le clair. Pourquoi pas? C'est leur décision stratégique. Mais Canal propose une programmation cinéma extraordinaire. Et Canal propose une offre de sport à nul autre pareil.
Donc ça vous a pas vraiment surpris,
mais,
en fait?
Non, ça m'a pas surpris, puisque Canal a abandonné un aspect éditorial du traitement du cinéma, et pas du sport, mais du cinéma, il y a un bout de temps déjà, malgré le cercle que vous avez abandonné, mais qui se poursuit.
Vous regardez encore Canal, vous?
Ah, bien sûr. Je regarde Canal dès qu'il y a de bonnes séries, il y en a beaucoup, de beaux magazines, de beaux films, et ils ont un traitement du sport, notamment de la F1 et du rugby, qui est magnifique.
Mais c'est quand même une page qui se tourne, Pierre Lescure, le départ de Canal du festival, y compris pour vous, je suppose.
Oui et non, c'était inéluctable qu'un jour ou l'autre, le festival et Canal se séparent pour les raisons qu'on vient de dire. Le deuil du Canal que j'ai connu, je l'ai fait dans les quelques années qu'ont suivi 2002 et que je suis passé par la fenêtre. Donc, depuis, Canal a connu des heures magnifiques, y compris à Cannes, avec le Grand Journal, Le Vankim et Denisot. Canal reste un partenaire très important pour le cinéma.
On parlait de pages qui se tournent. Quelle page est-ce qu'il vous reste encore à écrire, vous, Pierre Lescure?
Tant que j'aurai la santé et la même gourmandise qui ne se dément pas, il y a plein de trucs que j'ai encore envie de faire. Et avec le cinéma, je suis en train d'y réfléchir. Et puis j'ai envie de refaire un tour par le théâtre après avoir connu 5 années d'aimante grâce à François Pinault au Théâtre Marigny.
Mais le temps, au fond, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Ben, c'est la vie. Je pense que tant qu'on a l'envie, c'est Chaplin qui disait ça puisqu'on parle de Sinoche, la vie c'est le désir. Tant que t'as le désir, il n'y a pas de temps, t'as tout le temps.
Vous diriez que ça va trop vite quand même ?
Ah ben ça va trop vite parce que pour la première fois de ma vie, je suis obligé de temps en temps de compter en temps qui reste, en me disant, là ça va prendre au moins 5-6 ans à bâtir ce projet, faut peut-être pas jouer avec les allumettes, donc je vais prendre des projets plus courts.
Parce que ça flambe.
Si eh oui, ça flambe. Mais quand on a été flambeur, de temps en temps, faut se rappeler que c'est éphémère.
Quel flambeur est-ce que vous êtes, vous ?
Je suis un flambeur de « je sais pas résister à une tentation et à un désir ». Ben, vous êtes pareil, donc... regardez pas comme ça.
On parle pas de moi. On va reparler de temps, mais aussi d'images et de voix, juste après celle de Dooley Wilson qui envoûtait le Casablanca de Michael Curtis avec les éternels Ingrid Bergman et Humphrey Bogart. As time goes by, vous êtes sur France Inter avec Pierre Lescure. Vous écoutez Boomerang à Cannes.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
And man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Vous savez, à le voir sourire et s'émouvoir, c'est comme si le temps n'avait pas vraiment de prise sur lui. Hein. Le regard pétillant, canaille, la larme facile aussi, hein. Le sourire franc, caustique, juvénile, un peu dégarni certes, ça arrive au meilleur. Et ça ne fait que renforcer sa mine d'éternel bambin, constamment émerveillé, avec sa chemise bleue, rayée. Le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, invité de Boomerang ce matin pour parler de cinéma, d'images, d'émotions. Le cinéma, quelle place est-ce qu'il avait dans votre famille ?
Une place essentielle. Ma grand-mère, dont je parlais tout à l'heure, la première fois où j'ai vu pleurer cette femme qui avait les palmes académiques, qui était pimpante, toujours élégante, etc., c'est quand Gérard Philippe est mort. Je suis rentré de l'école et elle avait les larmes aux yeux. Je lui dis « Qu'est-ce que tu as ?» Elle me dit « Gérard Philippe est mort ». Et ça voulait tout dire, parce que c'était à la fois le diable au corps, mais c'était aussi les pièce du TNP où elle m'emmenait voir les mises en scène de Villard ou de George Wilson. Je l'avais vu dans Le Cid, je l'avais vu dans Ruy Blas.
Mais quel est le premier film que vous ayez vu avec votre mère et avec votre grand-mère, parce que vous y alliez tous ensemble?
L'un des premiers films que j'ai vu avec elle, c'était le Guerre et Paix de King Vidor, avec Audrey Hepburn, Henri Fonda, Mel Ferrer. Il y avait Vittorio Gassman qui jouait un officier russe complètement déglingué.
Et le cinéma de votre quartier ressemblait à quoi?
Il y avait deux cinémas, Choisy-le-Roi, où j'ai grandi, bien que né à Paris. Il y avait le Royal et le Splendide. C'était vraiment un cinéma comme Mitchell l'a montré dans la dernière séance. Il y avait du néon, il y avait des ouvreuses et de la publicité avant que le film commence et à l'entracte.
Quel lieu est-ce que c'est pour vous, une salle de cinéma au fond, Pierre Lescure?
C'est à la fois un lieu intime et un lieu ensemble. C'est un lieu intime parce que il n'y a que moi qui ressent l'émotion et qui vit de ma manière mon entrée au cinéma, mon envie d'y aller, le fait de libérer du temps, le fait d'y aller tout seul ou avec une ou avec un ou plusieurs. Et puis on est ensemble parce que c'est un truc, s'asseoir, regarder l'autre, regarder devant, on a une nuque, on a quelques sourires, ça s'éteint, c'est magnifique.
C'est un lieu j'adore ça. C'est un lieu d'apprentissage aussi pour vous.
Bien, mais c'est un lieu d'apprentissage de tout.
Alors justement, qu'est-ce que vous avez eu l'impression d'apprendre de la vie par le simple fait de regarder des images défiler sur un écran de cinéma?
Toutes les vies, Augustin, toutes les vies. Un condamné à mort s'est échappé. D'un seul coup, tu sors, tu y penses pendant des semaines et des semaines. Une histoire d'amour qui te bouleverse. Tiens, je parlais tout à l'heure du diable au corps. Ma génération est une génération qui a découvert un certain nombre de bouquins par le cinéma. Après, je lis Radiguet, forcément. Et pareil pour le Scaramouche et les Trois Mousquetaires. Je vais relire tout Dumas. Je parle de l'adolescent. Mais ensuite, en grandissant, le cinéma m'a ouvert sur tout. Comme il m'a ouvert sur le fait de nos métiers, le vôtre et le mien. C'est parce que d'un seul coup, je découvrais au cinéma, dans les films noirs américains, de gangsters ou de police, je découvrais une écriture cinématographique tellement à l'os, une manière de raconter les histoires où il n'y avait pas un adjectif de trop à l'image et dans les textes. C'est après que je me tape les Dashiell Hammett, les James Caan et autres.
Puis il y en a une qui vous a beaucoup appris aussi, c'est elle.
I could do some of the things I've always wanted to.
Like what?
Oh, you can't imagine. I'd like to do just whatever I like the whole day long.
Things like having your hair cut, eating gelato.
Yes, and I'd like to sit a sidewalk cafe and look in shop windows, walk in the rain, have fun and maybe some excitement.
Audrey Hepburn dans Vacances romaines de William Wyler en 1953. Quelle révélation est-ce que ça a été pour vous?
Révélation absolue, la grâce. J'ai rencontré la grâce.
Il paraît que vous vouliez l'épouser.
Oui, ben on avait que 16 ans de différence. Il y en a qu'on fait mieux que moi.
Hein. Pierre, c'est donc vraiment, vraiment, vraiment pas le moment là en ce moment. Vous avez dit un mot important, vous avez dit la grâce.
Ah oui.
Ça tient à quoi la grâce pour vous?
C'est parce que je ne le sais pas que ça me continue de me bouleverser comme un enfant aujourd'hui encore. La grâce d'Audrey Hepburn, c'est quand vous l'entendez là, discuter avec, échanger en riant avec Gregory Peck. On sent qu'il y a de la profondeur et pourtant il y a un charme absolu. Ça se définit pas, il faut le vivre.
Alors qu'est-ce qu'il y a de plus gracieux en vous, Pierre Lescure? Il y a forcément quelque chose.
Peut-être mon rire, ou mon plaisir à rire.
Vous qui, dès vos plus jeunes années, avez adoré le cinéma, vécu pour le cinéma, jamais vous n'avez envisagé de devenir comédien ou cinéaste, justement?
Non, parce que je pense que trop journaliste, j'étais un bon diseur. On m'a fait jouer des petits rôles dans quelques films, Pascal Thomas et quelques autres, mais je suis un bon raconteur. Je ne serais pas incarné, je pense.
Et puis un bon admirateur
aussi.
Ah oui.
Ah, je suis très très bon comme admirateur.
Vous savez, c'est quelque chose que j'aime bien chez vous, parce qu'on est dans un monde où l'admiration est toujours suspecte, alors que il y a rien de plus difficile et de plus humble que d'admirer, non?
Je sais pas mieux dire. D'abord, c'est un bonheur d'admirer. Surtout qu'en grandissant, plus ça va, plus on admire pour de bonnes raisons. Des raisons qui vous enrichissent, des raisons qui font que vous serez meilleur demain. Donc j'admire pas seulement des gens de cinéma, évidemment, j'admire des écrivains, j'admire mon voisin, j'admire des gens qui m'épatent, des gens qui me touchent, des gens qui m'impressionnent, des gens qui m'émeuvent. Donc l'admiration, je ne saurais trop recommander, puis c'est gratuit.
Puis admirer les artistes, c'est quelque chose quand même. Qu'est-ce qui fait un ou une artiste pour vous? À quoi ça tient?
C'est des gens qui ont été capables à un moment de créer quelque chose qui m'a touché au plus profond.
De déchaîner des passions, en fait.
De déchaîner des passions, depuis un bleu de clin jusqu'à un geste de sculpture. Trois coups de pinceau qui font que d'un seul coup, ils sont en moi à jamais. J'ai envie de les offrir à tout le monde en litho ou en bouquin. Une interprétation, une incarnation, un clic de photographe.
Je voudrais vous demander d'écouter Maurice Pialat, parce que moi j'ai toujours été très frappée par l'intelligence et l'amour du cinéma qu'il a. Même si son film est très controversé ce soir, je vous demande de le laisser parler.
Je ne vais pas faillir à ma réputation. Je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus.
Cannes 1987, remise de la Palme d'Or à Maurice Pialat pour son film Sous le soleil de Satan par Catherine Deneuve. Je sais que pour vous, c'est un souvenir mémorable. Vous étiez dans la salle?
J'étais dans la salle et je trouve ça admirable ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit. Vous vous rendez compte ce qu'elle dit? J'ai toujours été frappé par le talent et l'intelligence et le courage. Alors qu'à côté d'elle, il y a le président du jury, Yves Montand, qui dit « On l'a fait à l'unanimité !» Mais il voit les cris, il dit rien.
Les gens huent. Ouais.
Les gens huent, il ne dit rien. Et c'est Catherine qui prend le micro et qui dit « Je vous demande de l'écouter, j'ai toujours été frappé par son intelligence et son courage. » Elle emmerde la terre entière à ce moment-là, parce qu'elle le pense profond.
C'est sa gloire en même temps,
oui,
cette liberté. Et alors après, il s'est passé quoi? Que vous a dit Catherine Deneuve? Dans quel état-ce qu'elle était?
Elle était, comme d'habitude, d'abord scandalisée par le fait qu'on puisse siffler quelqu'un comme Pialat, quand bien même on serait d'accord ou pas d'accord avec son film, et elle était folle de joie d'avoir pu faire ce pied de nez, et surtout de s'être tenu à sa place.
Ce que ça dit aussi, c'est que le cinéma, et Cannes en particulier, sont des lieux d'échange, des lieux qui rendent possible le débat, le contradictoire, le dialogue, non?
Voilà, ce sont des mots admirables, c'est les mots de la vie. Le dialogue, le contradictoire, l'échange, et de temps en temps, le contradictoire très vigoureux. Mais c'est la vie.
Ça manque, ça?
Oui, ça manque parce que j'en ai ras-le-bol, moi, des anathèmes. C'est pas tout blanc, tout noir. On le sait bien depuis... Pour ceux qui ne le savaient pas, on l'a découvert avec la fin des rapports Est-Ouest et de la guerre froide. C'est fini, le tout blanc, tout noir. Tout devient plus complexe. Donc si on n'est pas capable de discuter, on va vers la merde.
Mais c'est quelque chose que vous avez vu évoluer, Pierre Lescure, cette façon de plus en plus difficile de dialoguer, de s'entendre, de réunir.
Oui, parce que si on n'a pas une conscience politique, si on n'étudie pas la politique à travers l'histoire, à travers les analyses sociologiques et économiques, il y a un moment, on n'a pas de réponse, alors on crie, alors on insulte, alors on rejette. Si on ne se nourrit pas de politique, si la politique n'est pas au fond de vous comme une absolue nécessité de se cultiver en permanence par rapport aux paramètres qui régissent le monde, alors on insulte, forcément on se bat, mais on ne débouche sur rien.
C'est le petit garçon là de Choisy qui parle encore aujourd'hui.
Bien sûr, parce que à Choisy, c'était, il y avait deux quartiers à Choisy, ils sont toujours là. Il y avait le quartier bourgeois d'un côté de la Seine, le quartier des gondoles, le quartier ouvrier de l'autre côté. Et il fallait sans arrêt aller et sur une rive et sur l'autre pour à peu près avoir une vision équilibrée.
Mais demain, Pierre Lescure, à quoi le cinéma devra-t-il résister?
Il faut qu'il résiste au feuilletonnage. Il faut qu'il résiste au feuilletonnage.
Parce que sinon, c'est la fin.
C'est pas la fin, mais c'est la banalisation. Donc, on n'est pas loin de la fin. C'est là qu'on prend des risques. Chaque film, qu'il soit un film d'auteur absolu ou un film commercial, doit rester un acte unique. C'est la différence avec le feuilleton. Je dis ça sans mépris pour les séries.
Mais ça doit passer par une vraie politique pour mettre en valeur le cinéma.
Ah ben, je pense que on n'a pas assez ces dernières années revendiqué le cinéma comme on n'a pas assez revendiqué le théâtre, revendiqué la culture. Vous comprenez, moi je suis un enfant de l'après-guerre, donc j'ai connu à la fois l'alliance des communistes et de Gaulle qui amène les communistes et Malraux à bosser, c'est-à-dire que Malraux lance cette politique culturelle soutenue à donf par le général de Gaulle, et ça donne aussi Jean Villard et le théâtre partout et le cinéma partout. Et il y aura Mitterrand Lang avec cette importance de la politique dans la vie de la société, à tous égards, depuis la Gay Pride jusqu'à la fête de la musique, en passant par la fête du cinéma et la création de Canal, etc., etc.
Alors, qu'est-ce qui reste à accomplir pour le Festival de Cannes aujourd'hui, à l'heure où, après 8 années, vous en quittez la présidence?
Je pense que plus que jamais, parce que ce monde est complexe, parce que chaque voix dans le monde compte, puisqu'il n'y a plus d'Est-Ouest et de bipolarité, chaque voix dans le monde compte, et elle doit passer par le cinéma, parce que c'est la plus belle manière qu'on ait connue jusqu'ici pour s'adresser au monde entier.
Merci infiniment, Pierre Lescure.
Merci, Augustin.
D'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que la 75e édition du Festival de Cannes débute demain et on aura le plaisir de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices de Boomerang, tous les matins en direct du Palais des Festivals. On donnera la parole à des artistes du monde entier, mais aussi à différents métiers du cinéma, parce qu'il s'agit quand même du plus grand festival au monde et qu'il est en France. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, l'instant M, c'est juste après ça.
Je peux sourire, je peux venir. Dans mes souvenirs, tu me fais.